Je m'appelle Marion Musac, je suis chorégraphe. J'ai eu le plaisir d'être invitée dans le festival Latitude Contemporaine, donc ravie d'être ici à Lille.
Comment vous est venue l'idée de réaliser une performance qui se concentre sur ces gestes iconiques ?
En fait, j'avais envie de confronter les mythologies modernes, peut-être dites numériques, avec des mythologies ancestrales. Après avoir observé pas mal les enfants, dans les cours de récréation notamment, et tous les gestes issus des jeux vidéo, dont Fortnite par exemple, qui est assez connu, et tous ces gestes aussi issus des célébrations sportives, que tous les enfants dans les cours de récréation utilisent, sans associer ça forcément à de la danse. Et j'ai eu envie d'essayer de tirer une écriture à partir de ça, et du coup de questionner de fait la notion de super-héros, ces personnalités héroïques dans lesquelles on essaye parfois de se reconnaître ou on aimerait ressembler. C'était ça l'idée, et finalement on observe tout au long de la pièce, de la performance, une douce mutation, une transformation qui finalement est récupérée par une sculpture qui a été réalisée par Emily Fife et qui nous ramène à un élément beaucoup plus végétal et beaucoup plus naturel, et vers une danse qui est beaucoup plus dans la célébration, comme une sorte de transe, de rituel qu'on peut avoir dans certains pays du monde.
Comment justement avez-vous trouvé tous ces gestes? Parce que vous m'avez dit que vous aviez observé dans les cours de récré, etc. Mais il y a dû bien avoir une sélection. Est-ce qu'il y a des gestes qui vous ont plus interpellé que d'autres?
En fait, avec Aimée Rose Rich, donc, qui est l'interprète danseuse du projet, c'est vraiment un travail de collaboration que nous avons fait ensemble. Et nous avons effectivement cherché, assez simplement, sur le net, des explications et des danses qui étaient issues de certains jeux vidéo. On a regardé quelques matchs de foot. En fait, on s'est amusé comme ça à glaner un peu ces petites vidéos, ces petits extraits vidéo de grands sportifs qu'on peut trouver assez facilement, évidemment. Ça circule beaucoup sur Internet.
Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de références au football, déjà dans la tenue, qui est évidemment une tenue de foot, short, avec les grandes chaussettes. Est-ce que c'était vraiment central dans le spectacle de représenter le foot, les joueurs de foot, comme des modèles pour les enfants, même dans la musique, dans le choix de la musique? C'est le Nation Army qui est repris dans les stades, de même pour I Will Survive.
Oui, tout à fait. Alors, du côté de la musique, en effet, on avait envie de faire des références. Alors, avec Johanna Luz, qui a composé, réarrangé, interprété la musique, on s'est amusé, effectivement, à attraper ces musiques qui sont hyper connues, et s'amuser à les transformer. En fait, ce sont des hymnes, finalement. On ne sait pas trop, d'ailleurs, pourquoi ces deux musiques-là sont devenues des hymnes. I Will Survive, des White Stripes, des White Stripes et I Will Survive de Gloria Gaynor, mais qui est quand même une reine du disco, qui est aussi un hymne LGBT, donc il y a aussi toutes ces références qui sont là, et la tenue de football, oui, effectivement, elles sont habillées en joueuses de foot, Johanna est habillée plus comme une arbitre, mais quelque part, ça questionne aussi la notion de genre, parce qu'elles sont dans des tenues qui sont... Malgré tout, encore aujourd'hui, même si ça bouge, elles sont quand même souvent associées à des joueurs masculins. Et donc l'idée aussi, c'était de travailler autour de ces corps qui sont en référence au masculin et qui, au fur et à mesure, par des éléments comme les cheveux, comme un tas de trucs, se mixent avec du féminin, en fait, et se transforment petit à petit vers du végétal, en fait. Donc il y a comme ça toute cette mutation qui s'opère.
Justement, vous parliez donc des cheveux. Il y a quand même un grand tableau où la danseuse bascule ses cheveux en avant et on ne reconnaît plus son visage. Elle fait la chorégraphie, mais sans qu'on puisse l'identifier. Est-ce que c'était un moyen justement de montrer combien ces gestes sont au-delà d'un être humain, perdurent dans le temps?
Oui, c'était vraiment l'idée de trouver une mutation à partir de ce qu'on est, en fait, et à partir de ce qu'on a. Donc ça commence même avec la ventriloquie, parce que juste avant que les cheveux fassent disparaître le visage, il y a tout ce moment où la parole, en fait... apparaît, mais disparaît au niveau des lèvres, et puis petit à petit, ce sont les cheveux qui prennent dessus, puis petit à petit, c'est le corps en entier qui est aspiré, avalé par les sculptures d'Emily Fife. Oui, c'était partir de ce qu'on était, de ce qu'on avait pour pouvoir travailler la mutation sans sans peu, enfin, avec peu d'éléments, en fait, extérieurs.
Et au-delà des gestes, il y a aussi des regards.
Oui, le regard, il a beaucoup d'importance, et mais avec ses grands yeux, a vraiment une partition, en fait, du regard. Pour nous, en fait, il y avait un peu cette référence au manga avec les yeux qui sont dessinés d'une certaine manière, très reconnaissables. Puis de travailler aussi sur la notion du bug, en fait, parce que quand on perd dans un jeu vidéo, il y a comme ça le personnage qui peut s'affoler un peu. Il y a comme une sorte de suspension du temps, mais qui est un peu comme ça fragmentée. Une sorte de glitch, en fait. Donc oui, en effet, le regard est là de cette manière-là. Le regard est là aussi par Johanna qui scrute l'espace et qui donne un peu les règles du jeu. En tous les cas, elle a aussi ce rôle un peu d'arbitre. Le regard aussi qui est porté avec les visages cachés vers les sculptures. Donc on regarde sans faire apparaître les yeux. Voilà, donc il y avait aussi tout ce travail-là qu'on avait envie de développer.
La performance se veut tout public. En tout cas, vous le faites savoir avec tous ces gestes où il y a différents degrés de lecture pour chaque âge.
Oui, donc c'est un projet en fait qui est tout public, qui en effet a été pas mal joué aussi pour des enfants. Mais moi, j'aime pas trop la dénomination spectacle pour enfants. J'aime bien quand les spectacles peuvent s'adresser à tout le monde. Et celui-ci particulièrement... est assez amusant parce que je pense qu'il y a une double lecture, en fait. C'est-à-dire que les enfants chopent certaines références, en fait, qu'ils ont dans leur corps, comme j'ai pu l'expliquer au début de notre conversation, et peut-être ne décèlent pas toujours ce travail sur la mutation, parce qu'en fait, c'est un peu plus abstrait pour eux. En revanche, je pense que les adultes ou les plus grands, les plus grands, j'en suis sûre, puisqu'on l'a déjà testé, vraiment se rendent compte de ça et l'observent et donc suivent vraiment le processus. C'est très intéressant de pouvoir le proposer à tout âge, en fait, et que chacun y trouve ses références.
Et justement, cette mutation, elle se fait avec une musique qui, je trouve, est futuriste. Est-ce que c'était le but, avoir un côté de science-fiction?
Oui, l'idée, en fait, c'était d'avoir des propositions qui sont vraiment issues des cultures populaires musicales, ce qui est le cas des deux chansons qui ont été choisies, et de les associer, effectivement, à un univers qui est plus étrange, qui peut effectivement faire penser à de la science-fiction, ou en tous les cas un monde futur. Voilà, donc effectivement, oui, on s'est amusé à chercher des sonorités dans ce registre-là, en fait, des sons qui sont un peu déformés. Mais il y a pas mal, en fait, il y a pas mal aussi dans le projet, je pense, une dimension un peu noire, en fait, un peu pessimiste aussi. Les couleurs sont très gaies par les sculptures, mais par le son, en fait, ça amorce aussi d'autres choses, quelque chose de peut-être un peu plus viscéral et d'un peu plus sombre.
Et justement, est-ce que vous pourriez un petit peu plus développer ce côté sombre? Parce que cette mutation, du coup, on a un premier tableau avec Seven Nation Army, donc cette musique qui apparaît, puis on a I Will Survive, la tentative de la danseuse de continuer à faire ses gestes, puis de nouveau cette musique. Mutation, elle paraît quand même très, très sombre, très négative pour la survie de ses gestes, puisqu'on a l'impression qu'ils deviennent de plus en plus difficiles, incohérents, par rapport à la chorégraphie du début.
Ouais. Oui, tout à fait. Bah, je pense que c'est le mot tentative est très juste. C'est-à-dire qu'elle essaye de maintenir cette force et cette vitalité que l'on admire en général, justement, chez les personnes héroïques, mais qui, de fait, ne tient pas au bout d'un moment. Donc, elle essaye, d'où cette danse aussi qui est répétitive. Et finalement, c'est quand même... cette dimension sombre apparaît parce que c'est peut-être une suite aussi d'échecs, quelque part. C'est la nature, en fait, qui va reprendre le dessus. Et malgré toute sa bonne volonté, tous ses élans, toute cette physicalité, en fait, finalement, ça ne fait que... se disfracter, on va dire, au fur et à mesure du temps.
Donc, au final, ces gestes, ils sont voués à disparaître avec une génération, deux générations, c'est ça, en
fait. Oui, on peut tout à fait aussi le dire comme ça. Parce que, puisqu'on part de références populaires, on le sait que dans les références populaires, voilà, il y a des durées, on va dire, hein, des cycles de vie. Et donc, oui, à un moment donné, cette notion de disparition et d'absorption, est-ce que ça va se régénérer ou pas? Et qu'est-ce qui reste toujours? C'est plutôt cet état naturel, en fait, et cette notion de paysage qui, finalement, elle, risque de perdurer dans le temps, si on y fait attention.
Donc, il y a quand même une volonté de montrer qu'il faut faire attention.
Oui, le lire en filigrane, bien sûr. C'est pas une revendication, c'est pas annoncé comme tel. Mais oui, en effet, on peut y songer. Puis après, ce qui est assez intéressant, c'est que les sculptures, elles ont été réalisées vraiment, on en parle beaucoup avec les enfants, avec des éléments extrêmement simples et presque, enfin, uniquement que la récupération, en fait.
Et justement, vous parliez de que les enfants, ils parlent beaucoup de ces totems, de ces sculptures. Comment ils perçoivent le spectacle? Quelle est leur première réaction?
Bah, les enfants, je pense qu'ils sont assez réactifs dans le fait que le panel, en fait, de gestes qui a été choisi, ce sont des choses que leur corps ont déjà utilisés, ils ont déjà été traversés par ces gestes-là. Donc du coup, c'est un vocabulaire qui est acquis. Et je pense que la surprise vient de la façon dont chorégraphiquement c'est composé, mis dans l'espace, mis en musique. Donc c'est vrai que il y a une facilité de lecture. Et puis effectivement, il y a des moments qui sont assez surprenants et inattendus pour eux. Que ce soit la disparition, d'aimer ou même de tout ce qui est de l'ordre de la ventriloquie, évidemment, c'est très étonnant pour eux. Ils se demandent souvent d'où vient le son, est-ce qu'il est enregistré, est-ce que c'est quelqu'un d'autre.
Surtout que moi, je trouve que ce moment, il peut faire peur.
Oui, oui. Après, il y a des enfants qui réagissent en disant qu'ils étaient un peu inquiets, en fait, pas trop sûrs de ce qu'ils ressentaient. C'est un peu sur le fil, en fait. Et donc, effectivement, ils ont parfois des ressentis qui sont plus liés à la peur, à l'inquiétude.